Nous continuons nos petites méditations dans cette période d'été, nos méditations estivales. Nous avons commencé un petit cycle sur les animaux dans la Bible, mais en allant dans différentes directions. On a pensé à la biche, donc un mammifère. Et là, on va dans toujours dans le règne animal, mais dans une direction tout à fait différente. On va vers un insecte, la fourmi. Donc on va parler de la fourmi et à l'occasion du travail et de son contraire, la paresse, plutôt dans le livre des Proverbes. Alors on va lire plusieurs passages, mais on va quand même lire en introduction ce passage de Proverbe 6, même si on le répétera à la fin. Proverbe 6, versets 6 à 11. « Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger ensuite. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette te surprendra comme un homme en armes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui nous rassemble encore. C'est elle qui vient dans notre vie pour tout changer, pour nous donner la vie, pour nous transformer petit à petit, pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, aptes à toute bonne œuvre. Amen. Alors, on a parlé abondamment l'année passée, du livre des Proverbes. On ne va pas y revenir. Mais le livre des Proverbes, donc, est un livre qui a pour objet de nous amener à adopter un art et une manière de vivre pratique, conforme à la pensée de Dieu pour chacun de nous. Alors, ce domaine de la paresse, du travail de la paresse, est très, très, très urgent, on va dire. Il est tout à fait adéquat parce que nous vivons donc l'après-Covid, soi-disant, même si on est encore dedans. Et si on regarde les journaux, si on voit un peu les thèmes abordés, on voit que beaucoup de gens n'ont plus envie de travailler. Et pour différentes raisons, ils pensent aux vacances, à des vacances éternelles. Voilà le bonheur. Il y a des journaux qui ont pris ce genre de thème comme thème pour le mois de juillet, début juillet. Alors, nous avons donc un thème tout à fait nécessaire, un thème que l'on peut tout à fait aborder aujourd'hui, qui rencontre de nos préoccupations. Alors, tout d'abord, il faut voir les caractéristiques de la paresse. Et le livre des Proverbes en donne trois, au moins. D'abord, le paresseux est un homme, ou une femme, bien sûr, nonchalant, qui préfère la somnolence, qui préfère l'assoupissement à l'activité. Et donc, c'est ce Proverbe 6, verset 9 à 11, à partir du verset 9 jusqu'à verset 11 que nous avons déjà lu tout à l'heure. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu? Un peu de sommeil, un peu croiser les bras. C'est un homme qui se plaît à rester couché. Son lit, ou on va dire son canapé, son sofa, son transat, enfin peu importe, son lit occupe une grande place dans sa vie. C'est le centre de sa vie. Et pour le paresseux, la chose la plus pénible est de se lever. Il ne veut rien entreprendre. Et il n'apprécie pas du tout la trop grande précision des questions qu'on lui pose. Vous voyez, c'est vraiment très humain. Jusqu'à quand seras-tu couché? On lui pose cette question. C'est trop précis pour lui. Quand te lèveras-tu? Il faudrait donner une heure, non, il ne peut pas. Il n'aime pas ce genre de questions, il n'aime pas ce genre de précision. Il ne veut pas répondre à ça, il veut rien entendre parler à propos de ça. Il ne veut connaître qu'une délicieuse somnolence. Et donc, il y a un autre texte, on va en lire un extrait tout à l'heure aussi, mais en Proverbes 26, 14 et 15, qui va un petit peu plus loin, qui dit « La porte tourne sur ses gonds Et le paresseux sur son lit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Alors c'est vraiment très 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 évocateur. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. On voit tous que c'est une porte. Elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. On peut faire 1000 fois la même chose, mais elle ne bouge pas de ses gonds. Elle reste au même endroit. Et bien, c'est un peu ça. Le paresseux, il se remue beaucoup, mais sur sa couche. Il se met d'un côté, il se met d'un autre, il se met à droite, à gauche, au milieu. Mais enfin, il est toujours sur sa couche, sur son lit. Il ne bouge pas de place. Et donc, pour donner le change, pour se donner le change, et donc le donner aux autres, il aime à faire semblant de travailler. Sa mauvaise conscience de paresseux l'amène à beaucoup s'agiter, à se fatiguer même, mais à ne rien faire d'effectif et d'efficace. Il tourne simplement sur ses gonds, comme une porte qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais qui ne bouge pas. Et donc il est dit aussi qu'il est tellement incapable d'achever, il est incapable d'achever quoi que ce soit, et lorsque par extraordinaire il fait quelque chose, cet effort l'a épuisé tellement que son ardeur s'éteint aussitôt. Et c'est ainsi qu'il laisse se refroidir son repas préféré devant lui. Le paresseux tourne sur ses gonds, comme le paresseux sur son lit, et le paresseux plonge sa main dans le plat, et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Tellement fatigué qu'il ne peut même pas envisager de faire ce qui lui plaît le plus. Alors la première question que nous pose ce texte biblique des Proverbes sur la paresse, c'est quel usage je fais de mon lit. Alors c'est pas vraiment à nous qu'il faut poser la question. Nous sommes tous sortis du lit ce matin et nous sommes arrivés à l'heure après nous être préparés. Mais c'est quand même toujours une bonne question qu'on peut se poser. Quel usage je fais de mon lit? Le lit est un meuble sur lequel je me couche pour me reposer le temps qu'il faut, le temps de me ressourcer en vue de mes activités futures. Voilà une définition du lit. Mais est-ce que ce n'est pas le lieu où j'entretiens ma paresse, où je me retire pour fuir mes responsabilités? Et c'est toujours une bonne question à se poser. Le temps passé au lit ou sur le canapé ou sur le sofa, et l'utilisation que l'on fait de son lit est le premier, on va dire, test biblique nous permettant d'évaluer la paresse. Et puis, il y a une autre chose que nous dit la Bible là-dessus, une autre caractéristique de la paresse, c'est que le paresseux n'est pas né paresseux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est devenu petit à petit en laissant des mauvaises habitudes se développer dans sa vie. Ça, c'est un grand thème biblique aussi. Donc je reprends un extrait, Proverbe 26, mais cette fois 13 et 16. Eh bien, le paresseux dit, il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Vous avez remarqué, lionceau sur le chemin, lion dans les rues. Tout d'un coup, il se transforme en lion. On y reviendra. Et puis, dernier verset, le paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme, c'est vraiment le chiffre de la perfection, que cette personne qui répond avec bon goût. Alors, là aussi, on va dire, ce dernier verset rationalise sa paresse. Le paresseux, pour ne rien faire, eh bien, se trouve une bonne excuse. Et il se dit plus sage à ses propres yeux que cet expert avisé. Donc il se met au-dessus des choses. Et donc tous les raisonnements que les autres peuvent lui faire, il n'en tient pas compte parce que lui, il a trouvé une sagesse supérieure. Une des caractéristiques majeures du paresseux, c'est l'indulgence qu'il a envers lui-même. Il refuse de voir la réalité en face. Au contraire, il se trouve donc plein d'excuses. Et il en arrive à croire à ses excuses. C'est ça. C'est ça le grand piège, dans plusieurs domaines de la vie d'ailleurs, pas seulement celui-là. Et il se dit, eh ben, peut-être qu'après tout, il y a un lion. On me dit qu'il y a un lionceau. Oh, c'est peut-être un lion. Donc une bonne raison de ne pas sortir, une bonne raison de rien faire. Hein. C'est comme si on nous annonce, oh, il y a un crachat. Non, c'est une tempête. Hein. On trouve, ça va se transformer en tempête, il ne faut surtout pas que je sorte. Hein. Surtout, voilà. Et donc, il trouve toutes sortes d'excuses. On le dit que c'est un tir au flanc. Non, je ne suis pas un tir au flanc. Je suis réaliste. Je vois les choses telles qu'elles sont. On dit qu'il se dorlote. Non, je ne me dorlote pas. Je ne suis pas au mieux de ma forme ce matin. Oh, excuse encore. On dit, on montre du doigt son inertie. Mais non. Je refuse qu'on me bouscule, simplement. Voilà. Donc, toutes sortes de choses qu'on croit entendre parfois par notre propre bouche. Hein. Et donc, c'est vraiment... et on peut même... Oui, tu fais preuve de paresse intellectuelle. Non. Je fais preuve de fidélité à mes convictions. Donc, j'ai tiré là dans plusieurs directions pour montrer que nous sommes tous habiles à trouver dans n'importe quel domaine des excuses. Alors, on peut noter... dans ce passage des Proverbes, que c'est rarement de manière brutale que la paresse s'installe dans une vie. J'ai insisté dans la lecture sur un peu. C'est petit à petit que les choses se font. C'est dans le relâchement quotidien, les petits renoncements quotidiens, que ces choses se font. Il y a d'abord des lâchetés imperceptibles, que personne ne perçoit, mais que nous, on perçoit, on a renoncé à quelque chose dans notre cœur, alors que personne ne le voit encore, ne voit encore ses effets de ce renoncement. Il y a l'abandon de certaines disciplines. Il y a la démission face à certaines difficultés. Et puis, c'est ainsi que petit à petit, la paresse prend le dessus, finit par devenir un mode de vie auquel on s'habitue. Donc, trois fois, il est bien dit, un peu de sommeil, un peu simplement. Un peu d'assoupissement, un peu, un peu croiser les mains en te couchant, un peu. Hein. Et puis, il y a la conséquence, et la pauvreté, carrément, la pauvreté, te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc, il faut le dire, le monde dans lequel nous vivons, non seulement ne nous aide pas, mais fait tout pour faciliter la paresse. Nous vivons à une époque... Bon, déjà, il y a 3000 ans, c'était un peu comme ça, vous allez me dire. Mais ça n'a fait qu'amplifier. Hein. Et donc, le Covid, encore comme je disais dans l'introduction, n'a fait qu'accentuer un penchant naturel à la paresse. Par exemple, il est plus facile pour une mère ou un père de placer ses enfants devant la télé plutôt que de prendre un vrai moment avec eux. Il est, dans un autre domaine, si on n'a pas d'enfant, il est plus facile d'aller sur Internet pour trouver une méditation toute faite plutôt que de réfléchir par soi-même. Autre domaine, il est plus agréable au premier abord de regarder un film que de prendre une heure pour lire sa Bible, pour lire d'ailleurs en général, pour lire sa Bible et prier. On l'a dit tout à l'heure aussi un peu. Donc, on est tous concernés, c'est ça que je veux dire avec ces trois exemples. Il nous arrive de pécher parce que nous avons été paresseux à l'égard du péché. Il nous arrive de chuter lamentablement parce que nous avons été paresseux à l'égard du péché. Et au lieu de combattre le péché, nous nous habituons à lui, nous sommes habitués à lui. Nous tolérons une pensée, nous la nourrissons ensuite. Alors, et le moment est venu enfin où cela se traduit par un acte. Et la spirale enclenchée, nous amène toujours plus loin, là où on ne veut pas aller. Et une petite chose finit par nous envahir, par dominer sur tout notre être. Alors, deux passages du Nouveau Testament, dans ce sens, Romains 16, 11, simplement, « Ne soyez pas paresseux, c'est Romains 12, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 16, Romains 12, ne soyez pas paresseux, mais empressés, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc, c'est l'apôtre Paul juge nécessaire de dire ça à des chrétiens, au début de ses exhortations dans la partie pratique de Romains. Et puis les épîtres aux Hébreux aussi dans la partie pratique. Considérez, Hébreux 12, 3, 4, considérez le Christ qui a supporté contre sa personne une opposition, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc là, le péché est envisagé pour le chrétien. Le chrétien régénéré, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il est envisagé comme une lutte, comme un combat, comme un acte de résistance, de résilience, comme on dit aujourd'hui, jusqu'au sang. Jusqu'à vraiment, jusqu'au bout, on ne peut pas dire mieux. Et donc, voilà la vie chrétienne, une partie de la vie chrétienne aussi que nous sommes appelés à vivre, ce combat contre le péché, qui nécessite tous nos efforts. Et puis, l'autre caractéristique de la paresse, le paresseux est un homme qui se fait préjudice à lui-même, qui se nuit à lui-même, on pourrait dire. Il suit une voie qui le mène inévitablement à la ruine. Alors, j'ai déjà insisté sur le fait, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, bien. Et la pauvreté te surprendra. Et la disette aussi. Donc, c'est un aspect important du traitement de la paresse dans le livre des Proverbes. Il y a plusieurs proverbes dans ce sens, on n'y revient pas aujourd'hui. Mais on peut dire que, pour aller plus loin dans la méditation à ce propos, que voilà la grande frustration que vit le paresseux. Il souhaite d'un côté, parvenir au succès, à la réussite, comme tout le monde, mais comme il se refuse à fournir l'effort qui lui permettrait d'y parvenir, il est un éternel insatisfait. S'il est frustré, ce n'est pas parce qu'il manque de possibilités pour réussir, c'est parce qu'il ne les exploite pas. Voilà ce qu'il faut ajouter. Plus la paresse s'installe, plus il devient alors difficile. Il devient quelqu'un de difficile, quelqu'un de pénible. Et le paresseux est comme ça parce qu'il se rend compte qu'il est dans une nasse et il ne peut pas s'en sortir. Et donc, il devient difficile et pénible. Alors, c'est vrai dans tous les domaines. Et je vous donne encore au moins deux pistes pour que chacun se sente concerné. Tout d'abord, la recherche de Dieu. J'aime bien cette petite histoire qui raconte qu'un jour, un homme va voir un pasteur, un responsable d'église, et lui dit « Je suis non-croyant, je voudrais m'ouvrir aux choses spirituelles. » Bon. Le pasteur lui répond, donc lui demande « Pouvez-vous m'aider à m'éveiller à la question de Dieu ?» Les mots sont choisis, là. Alors le pasteur lui répond « Mais avez-vous étudié lu un évangile, une partie de la Bible. Non, je suis un croyant. Avez-vous appelé Dieu à votre secours? Est-ce que vous lui avez demandé d'éclairer votre route? Non, je suis un incroyant. Avez-vous cherché une communauté, comme disait tout à l'heure aussi Ginka, une communauté pour trouver des frères et des sœurs avec qui partager votre recherche? Non, je suis un incroyant. » Alors, qu'est-ce que répond le pasteur? Ben voilà, vous n'êtes pas un incroyant, vous êtes un paresseux. Et c'est vrai dans ce domaine spirituel aussi, que ce soit pour les débuts de notre vie spirituelle, que ce soit aussi pour la suite, pour grandir en Christ, comme dit ce beau cantique qu'on a chanté, eh bien, il faut là aussi se donner les moyens. C'est aussi dans le domaine du mariage. On peut se laisser facilement aller les uns et les autres. Et là aussi, on peut après avoir toutes sortes de frustrations. On a chacun, là aussi, on peut s'installer dans des situations et après il est difficile, pénible de s'en sortir. Alors, heureusement, il y a des remèdes à la paresse. Que faire lorsqu'on est atteint de paresse chronique et que l'on se reconnaît une forte tendance à la paresse? Eh bien, C'est ce que on va voir maintenant avec la Bible. Toujours la Bible. Alors, le premier pas est de considérer que la paresse chronique, la paresse durable, la paresse, on va dire, comportementale, n'a aucune excuse. Chacun de nous, même les moins doués d'entre nous, chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose qu'il peut mettre en valeur. Personne ne peut dire « moi, j'ai rien à mettre en valeur ». Non, c'est faux. C'est archi faux. C'est accuser Dieu d'être avare, de rien donner à certains. Non, ne pas le faire. On a chacun quelque chose. Ne pas le mettre en valeur, c'est une offense envers le Créateur et le Sauveur. Et donc, un changement radical d'état d'esprit, la première étape pour remédier d'abord à la paresse. Alors, il se peut, c'est vrai que l'habitude de la paresse nous est emmenée si loin, soit devenue si forte, que le seul retournement de la volonté ne suffise pas pour endiguer l'habitude. Alors, ce qui est quand même important de dire, c'est que le livre des Proverbes nous invite alors à user d'un moyen pratique pour nous en sortir. Celui d'avoir un modèle. Ça serait bien d'avoir un modèle, un professeur, nous aidant à sortir de la paresse. Alors, le premier exemple, le meilleur professeur qu'elle nous donne, que la Bible nous donne à ce sujet, c'est donc l'animal du jour. C'est un des plus petits animaux de la création, c'est la fourmi. Donc, on l'a lu en introduction, Proverbe 6 à 8. Et en tout cas, 6 à 8, il est dit, « Va vers la fourmi, paresseux. » Donc, il y a une action, « Va vers la fourmi. » Considère ses voies, considère. Réfléchis et deviens sage ensuite. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors là, c'est vraiment la caractéristique positive de la fourmi. C'est sa prévoyance. Oh, il y a des caractéristiques négatives, racontées par les poètes, comme La Fontaine. Voilà, mais là, c'est très positif. Et seulement l'aspect positif est mis en avant pour nous inciter à aller plus loin. Sa prévoyance. Bon, pendant l'été, elle travaille. Moi, je l'ai vu travailler. On la voit travailler et on aimerait bien mieux pas la voir travailler parce qu'on la voit travailler dès qu'on laisse une miette dans un endroit, il y a des fourmis qui arrivent et on ne sait plus comment faire. Il faut employer les grands moyens. Bon, elle travaille, ça c'est sûr. Elle travaille dans le domaine rural, dans les villes, partout. Elle sait que l'hiver, saison où l'on ne peut plus rien faire, va venir. Et elle sait que les beaux jours ne vont pas durer. Et donc on peut dire que la fourmi a une vision à long terme. Une vision à long terme de la vie. Elle ne vit pas en fonction du moment présent, du moment facile, mais elle vit dans la perspective d'un avenir qu'elle sait difficile, qu'elle sait rigoureux. Alors il est indiscutable que celui qui veut sortir de sa paresse doit changer d'état d'esprit. Alors on vit aujourd'hui avec toutes sortes de théories dans la tête. On nous dit « Oh non, il faut laisser faire la nature ». Il ne faut pas changer d'état d'esprit, il faut laisser faire les choses. Certaines théories prétendent qu'il faut laisser s'épanouir toutes les tendances qui sont en nous. Oh là là. Et telle n'est pas la leçon que nous donne la Bible, mais que nous donne même la nature. Si un jardinier laissait pousser tout ce qui germe spontanément dans le jardin, mais on sait bien que les mauvaises herbes auraient pris le dessus très facilement. Et Jésus a signalé de manière plus réaliste ce qui sort du cœur naturel de l'homme. Ce qui sort spontanément, c'est Matthieu 15, 19. Ce qui sort du cœur, spontanément, on va dire, c'est les mauvaises pensées, les meurtres, adultères, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème, etc. etc. Et on pourrait tous dire que c'est vrai ce que dit Jésus. On le sait par expérience. Heureusement, Dieu nous aide dans notre lutte contre les mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes provenant de notre nature pécheresse, qui est toujours là. Il ne nous dispense pas des efforts pour éradiquer ces mauvaises herbes. Alors je vais terminer avec deux passages du Nouveau Testament simplement. Philippiens 2, 12. Ainsi mes bien-aimés, donc c'est aux chrétiens de Philippe qu'il parle. Comme vous avez toujours obéi, c'est merveilleux de pouvoir dire ça à quelqu'un. Comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, eh bien, continuez à mettre votre salut en action. Et puis, simplement 2 Pierre 1, 3, 11, que j'aime beaucoup aussi. Sa divine puissance, la puissance de Dieu, donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rappelez-vous ça, quand vous pensez que vous n'avez rien. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné. À cause de cela, faites tous vos efforts. Donc, ce n'est pas parce que Dieu nous a donné qu'on doit rien faire. Non, c'est parce qu'il nous a tout donné qu'on doit faire tous nos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à la vertu la connaissance. Pour joindre à la connaissance la maîtrise de soi. Pour joindre à la maîtrise de soi la persévérance. À la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Voilà, tout un programme. Et en effet, si ces choses existent en vous, ils s'y multiplient. Il ne s'agit pas qu'elles existent, il faut qu'elles s'y multiplient. Il y a encore du boulot. Eh bien, elles ne vous laisseront pas sans activité, voilà, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, lui qui est au centre de tout et que nous voulons glorifier par nos vies. Voilà, donc là, c'est certainement la leçon que tous ces passages sur la paresse veulent nous enseigner. Amen.